Nous demain. Une émission de Jean-Pierre Estrampes. Architecture. Urbanisme, cadre de vie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on veut reprendre sur un sujet qui est récurrent dans cette émission, mais qui est Notre-Dame de Paris. Et j'ai fait plusieurs émissions sur ce sujet, mais c'est l'actualité, puisqu'en fait, ce n'est pas du tout de ma faute, mais c'est le président de la République qui a certainement, vous l'avez vu, annoncé l'ouverture de 150 chantiers qui s'appelleront les chantiers de Notre-Dame, puisque c'est lui-même qui a parlé de métaux de Notre-Dame. Donc apparemment, il est très fier de la manière dont les choses se sont passées. Vous savez que je ne partage pas cela, mais c'est intéressant de revenir et surtout de regarder les arguments que le président a donnés. Alors, avant de vous donner ces deux arguments principaux, on notera, si vous l'avez vu dans les images télévisées de cette annonce, on le voyait avec un casque de chantier, une veste orange d'ouvrier, une veste de sécurité, et entouré de personnages, d'ailleurs comme lui, cravatés, ce qui était un peu ridicule, une sorte là d'armée de Playmobil. Et on ne comprend pas très bien pourquoi tous ces gens-là étaient habillés en ouvrier sur un chantier, parce qu'ils ne sont pas les ouvriers. Donc, dans les deux propositions qu'il fait, il parle d'une part des normes dont il se proposait de s'affranchir sur ces 150 chantiers. Et il prenait comme exemple Notre-Dame en disant qu'il s'était affranchi des normes. Et le deuxième point, c'était la chaîne de commandement. Donc on va parler du deuxième point, qui était donc les normes excessives. Alors, il est chef du gouvernement, donc il pourrait dire il y a des normes excessives, on peut les réduire, on peut certaines les enlever. Et non, on va faire une exception pour 150 chantiers parce qu'il y a eu une exception pour Notre-Dame. On ne comprend pas très bien la logique, mais ce n'est peut-être pas l'essentiel. Ce qui est important de rappeler que les normes sur les chantiers de construction en architecture ne sont pas faites par hasard. Un grand nombre de ces normes, c'est bien de critiquer les normes, mais enfin, il y a les normes, notamment essentiellement les normes de sécurité, et paradoxalement, il est habillé, ce qui est complètement incongru, avec des habits de sécurité, ce qui est obligatoire sur les chantiers pour ceux qui travaillent. Mais moi, en tant qu'architecte, je ne mettais pas les casques parce que ça m'agaçait, et puis je n'étais pas un ouvrier. Et donc, cette protection nécessaire que l'on doit faire appliquer, et par exemple, l'architecte doit les faire appliquer sur un chantier, mais pas forcément à lui-même, parce qu'il n'est pas il n'est pas en danger sur le chantier. Donc, Déjà, la première chose qui est ridicule. Alors, ces normes de sécurité, pour dire, elles sont justifiées. Il y a des morts sur les chantiers, donc il y a tout un ensemble de règles qui a évolué parce que il y a eu des engins mécaniques, etc. Et ce n'est pas les mêmes choses. Donc, tout cela me paraît un peu ridicule. Et c'est pas avec cela qu'on fera des économies de temps et d'argent. Les deuxièmes ensembles de règles sont des règles environnementales. Et là, effectivement, il y a eu un excès de règles environnementales pour le logement. Vous connaissez un propos que j'ai tenu, mais que l'on peut ou ne pas partager, mais j'ai eu par rapport à cet excès de règles environnementales qui portent essentiellement sur le thermique, donc sur l'isolation des bâtiments, tout ça est effectivement assez excessif. Alors, dans le cas de Notre-Dame, il n'y avait pas ces règles énergétiques. C'est dans un bâtiment ancien, d'abord, on en prend beaucoup moins, un bâtiment, et dans le cas d'une cathédrale, il n'y en a pas du tout. Donc, quand on parle de cette absence de règles à Notre-Dame, ça me paraît un peu ridicule. Alors, si on doit alléger les règles, comme ça a été fait sur les diagnostics par rapport aux locations, c'est le rôle du président de les abroger ou de faire de les simplifier. Alors, les troisièmes règles qui sont le droit des tiers, là, effectivement, ça pose un autre problème juridique et je ne pense pas, d'ailleurs, que sur ces 50 chantiers, ils puissent s'en dégager. Alors, ce sont des règles qui sont le droit des tiers. Le droit des tiers, ça veut dire que quand on construit à côté de chez vous, vous pouvez signaler que le bâtiment qui va être construit vous porte en préjudice. Par exemple, ça va vous enlever le soleil, vous boucher la vue. Donc, il peut y avoir, par rapport à cela, le permis de construire qui peut être devant des tribunaux, le tribunal administratif, et voilà, donc ça c'est quelque chose qui effectivement peut ralentir les chantiers, mais en droit c'est assez justifié. Alors c'est vrai qu'il y a une extension au-delà du simple droit des tiers, et ça c'est assez récent, où on l'avait étendu justement pour que ce soit aussi les associations environnementales pouvaient porter plainte contre des chantiers, et effectivement ça a eu des effets négatifs. Bon, mais en fait ça ne s'applique pas à tous les chantiers et ça ne semble pas quelque chose de très important. Donc l'exemple de Notre-Dame et de l'absence des règles de chantier est aussi je pense que c'est un fake, c'est quelque chose qui est faux, puisqu'en fait, des règles environnementales, il y en a pas. Les règles à respecter, c'est les règles de la charte de Venise, de la protection des bâtiments anciens. Après, les règles de sécurité, c'est pareil sur tous les chantiers, et il ne faut pas s'offusquer de les respecter, bien au contraire. Quant aux règles des tiers, à Notre-Dame, personne ne peut protester contre un bâtiment qui est là et on ne peut absolument pas avoir un recours contre un bâtiment qui existe depuis des siècles. Donc, ce problème de l'allègement des règles me paraît ridicule, puisqu'en fait, à Notre-Dame, contrairement à ce qui était raconté, je ne vois pas très bien ce que l'on a pu alléger comme règle. Donc là, il s'était paré d'un rôle de chef transgressif, mais ce n'est pas vrai du tout. Je ne vois pas quelles règles n'ont pas été appliquées sur le chantier de Notre-Dame. Alors, il parle d'une autre chose, il parle de la chaîne de commandement. Et alors là, c'est quand même assez intéressant parce qu'effectivement, il se met en tête en tant que général des armées de Notre-Dame et qu'il y aurait eu toute une chaîne. Alors on sait qu'il avait nommé un général comme représentant de l'État. Et puis il y avait donc l'architecte des bâtiments de France et après les chefs de chantier. Mais il y a le maître d'ouvrage qui est le commanditaire, il y a l'architecte et son chantier. C'est une chaîne de commandement, sachant que le commandement essentiel et la responsabilité est celle de l'architecte. Je ne vois pas très bien ce qu'il a inventé de nouveau par rapport à cela. Donc on va marquer une pause musicale, et puis je vais continuer sur cette analyse de ce qui s'est passé à Notre-Dame, qui est présentée évidemment comme non seulement une victoire historique, mais en plus comme un modèle à suivre pour la nation tout entière sur 150 chantiers. nous reprenons sur Notre-Dame. Et on peut dire que ce que dit le président comme succès extraordinaire qui s'attribue, et puis certains qui sont critiques du président, on peut dire dans la presse, dans les autres partis politiques, tout le monde dit au moins il aura réussi Notre-Dame. Mais la question, je ne vais pas commenter la politique générale de 10 ans de Macron, mais je vais parler simplement du sujet que je maîtrise, que je connais, qui est celui de cette rénovation. Alors, c'est vrai que je vais à contre-courant de tout ce qui est dit sur le sujet. On est absolument ébaudi de 5 ans de travaux et d'être rentré dans le budget et d'avoir reconstruit Notre-Dame. Alors déjà, le mot « reconstruit » est un mensonge absolu. Reconstruire, j'en ai déjà parlé, c'est en français quelque chose de très clair, c'est à partir d'une démolition que l'on fait une reconstruction. Tout le reste, ça, le vocabulaire est bien précis. Il s'agit de restaurer, il s'agit de réparer, mais en aucun cas, il s'agit de reconstruire. Reconstruire, c'est par exemple si on voulait reconstruire les Tuileries qui ont été brûlées pendant la Commune et démolies sous la Troisième République. On pourrait reconstruire le palais des Tuileries. Mais dans le cas de Notre-Dame, où on a parlé de la reconstruction, je pense que c'est quand même chose tellement, totalement abusif. Alors, je l'avais déjà dit, mais je vais le répéter. Il y a eu la charpente qui a brûlé, la charpente a fait 2 trous dans la voûte, ce qui représentait 15% de la voûte, enfin surtout la flèche centrale de Viollet-le-Duc qui, évidemment, a percé la voûte, mais la voûte ne s'est pas effondrée. Et les tours, le transept, l'essentiel du bâtiment n'a pas bougé. Donc on a fait tout un cinéma dont je vais parler par rapport à cela, mais en fait le bâtiment avait été au final très peu touché et la charpente était une partie non vue de l'édifice et dans l'histoire les charpentes ont été refaites dans de nombreux bâtiments anciens sans nécessiter une collecte nationale. Donc dans ce cas on se trouve devant le problème du coût également qui est complètement, j'avais employé le terme pharaonique parce que je l'avais comparé avec le coût du musée du Caire qui a été inauguré, on peut dire, récemment et d'une manière concomitante. Et on avait cet immense musée qui a coûté le même prix que cette restauration d'un bâtiment ancien. Alors, on va parler de revenir sur la chaîne de commandement et la manière dont les choses se sont déroulées. Alors, comme je vous disais, il n'y a rien de nouveau sur la manière dont un chantier est mené. Et ce n'est pas Macron qui n'a aucune expérience, et ça c'est quand même certainement un problème, parce que je pense que de tous les présidents, il est celui, par son âge et par le fait qu'il n'a jamais été élu, à n'avoir jamais commandé un bâtiment public, notamment, et donc il est totalement vierge de toute expérience par rapport à cela. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il donne des leçons par rapport à la chaîne de commandement. Alors comme je vous disais, le chargé et le commandement sur un chantier, c'est l'architecte. Et dans ce cas-là, c'était l'architecte des bâtiments de France. Alors ce qui est assez curieux, et ça je l'ai déjà dit, c'est que l'architecte qui était chargé de l'entretien de l'édifice était responsable du fait qu'il y a eu un incendie, et un incendie qui n'a pas été provoqué par un attentat, mais qui a été provoqué, on en est, même si l'enquête n'a pas abouti, à peu près certain, par un manque d'équipement anti-incendie, comme c'est le cas du Louvre avec l'antivol et aussi l'incendie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une faute de l'État, parce que Notre-Dame est un bâtiment qui est utilisé par l'archevêché, mais qui est un bâtiment dont la responsabilité est de l'État. Et l'État délègue cette responsabilité à l'architecte des bâtiments de France, qui est un fonctionnaire qui est payé pour cet entretien. Il y a eu un rapport extrêmement inquiétant et disant que il y avait une installation électrique complètement défectueuse dans la charpente, que il manquait toute la technologie actuelle de l'antifeu, donc il y avait des responsabilités. Alors le paradoxe, c'est que le responsable de cet incendie, alors je ne dis pas qu'il aurait dû être en prison, mais en tout cas, il aurait dû être écarté de la rénovation, et c'est lui qui a rénové. Donc, il a rénové avec une souscription qui avait été très largement suivie par nos contemporains avec un grand enthousiasme. Et la somme de 850 millions d'euros est une somme évidemment très très importante et qui ne correspondait absolument pas aux deux trous qui représentaient 15% de la voûte et qui au total de l'édifice qui était... les tours n'avaient pas été touchées, les vitraux non plus, les arcs-boutants, le chevet, enfin l'essentiel de la cathédrale n'avait pas été touché. Simplement, il y avait l'effondrement de la suie dans la nef centrale, qui était évidemment très, on peut dire, c'était très spectaculaire et photogénique. Donc on a des photos assez catastrophiques là de la suie, de la fumée, de la cathédrale noircie. Mais enfin, bon, il s'agissait essentiellement de nettoyage, et nettoyer la cathédrale et reboucher deux trous dans la voûte, ce n'est pas 850 millions d'euros. Alors, on avait vu dans le chantier, avec force documentaire, les arcs-boutants qui paraît-il, menaçaient. Non, les arcs-boutants ne menaçaient pas de tomber. Et la cathédrale ne menaçait pas de tomber, parce que d'abord, elle serait tombée. Le fait que la charpente ait brûlé n'a aucun effet sur les arcs-boutants et sur les tours, donc la cathédrale, il n'y avait aucun danger. Mais ça faisait partie de la manière d'utiliser l'argent, et pour que, on peut dire, les généreux donateurs n'aient pas l'impression qu'ils avaient trop donné et il fallait employer l'argent. Alors, l'architecte des bâtiments de France, il a un double statut, il est fonctionnaire, mais aussi, il intervient non pas en tant que fonctionnaire, ce qu'il pourrait être, mais il intervient à titre privé, c'est-à-dire qu'il touche les honoraires. Et il avait fait une demande d'honoraires de complexité. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais suivant les complexités, les honoraires sont plus élevés. Alors, je n'ai pas le montant, que je n'ai pas pu trouver, des honoraires de l'architecte, mais les honoraires de l'architecte sont complètement fabuleux sur une somme pareille pour en fait des travaux de nettoyage pour l'essentiel et la reconstruction d'une charpente. Alors évidemment, on a fait tout un cinéma de prendre des chaînes dans toute la France pour reconstituer une charpente, celle de Chartres est métallique depuis des décennies et personne ne voit la charpente. Et tout ça était un cinéma inutile, mais qui coûtait beaucoup d'argent. Donc, de prendre Notre-Dame comme exemple de ce qu'il faudrait faire, je pense que Notre-Dame est un scandale absolu. Alors, le scandale, comme je disais, c'est d'abord la responsabilité de l'État, la responsabilité des fonctionnaires de l'État, une gabegie financière invraisemblable, et au final, une durée dans le temps qui, justement, pour justifier tout cela, et il a été convenu par tout le monde, mais tout le monde ne sait pas les temps qu'il faut pour construire. Mais 5 ans pour nettoyer et refaire un bout de toiture en même temps qu'une charpente, bah, et ce n'est pas, c'est un temps très très long. Et je pense que les travaux auraient pu être faits en 18 mois. C'est tout à fait possible. Je regardais une émission sur Arte récemment. Non, ce n'était pas Arte, c'est une autre chaîne, excusez-moi. Mais sur la construction des châteaux, et notamment du château de Vaux-le-Vicomte. Et le château de Vaux-le-Vicomte, le chantier qui a été fait, on connaît l'histoire, Louis XIV, Fouquet, et ce château qui a servi, on peut dire, d'entraînement pour les architectes et pour le paysagiste, qui a été rondement mené, et il a été réalisé en 13 mois. Donc, on est arrivé au XVIIIe siècle à faire période du XVIIe et du XVIIIe siècle à faire une construction aussi complexe que ce château avec les fontaines, les pièces d'eau, le jardin, etc. dans un temps aussi court, et on a réparé 2 trous dans une voûte et refait une charpente en 5 ans, et on veut se servir de cela comme un modèle pour 150 futurs chantiers pour la France. Je pense qu'il y a une leçon à tirer de cela. C'était « Où vivrons-nous demain ?» Je remercie Sacha qui est toujours à la technique et je vous dis à la semaine prochaine.